Et puis soudain, dans le petit bureau des défenseurs des droits de l'homme, un dernier coup de téléphone. Leur ami disparu a été assassiné. À 80 km de Grosny, son corps vient d'être retrouvé, criblé de balles. Elle s'appelait Natalia Estemirova, Natacha pour ses proches. Dénoncer les crimes, les tortures, les disparitions, depuis des années, c'était le quotidien de cette militante des droits de l'homme, respectée et honorée en Occident.
C'est 13-14.
Au lendemain de ce meurtre, tous les regards se tournent vers un homme, Ramzan Kadyrov.
Je jure, en tant que président de la République de Tchétchénie, de respecter les droits et la liberté des citoyens.
Je trouve ça fort, en fait.
Kadyrov a tout juste 30 ans lorsqu'il accède au pouvoir.
C'est mieux déjà.
Un clip de propagande sur la télévision tchétchène révèle un homme mégalomane, protégé par le président russe, Vladimir Poutine. L'homme porte aussi fièrement l'uniforme. Devenu tout puissant à Grosny, il écarte tous ceux qui le gênent et ne s'en cache pas. Du coup, au lendemain de l'assassinat, le directeur de l'ONG russe où travaillait Natacha accuse Kadyrov.
Le coupable de ce crime a un nom. Il s'appelle Ramzan Kadyrov.
Ramzan Kadyrov va lui répondre à sa manière.
Et pourquoi Kadyrov tuerait une femme dont personne n'a besoin? Une femme sans honneur, qui n'a jamais eu de dignité.
Qui était Natacha Estemirova? Les dossiers sur lesquels elle travaillait étaient-ils vraiment une menace pour Kadyrov?
Donc bonsoir, bienvenue à nos nouvelles rencontres autour du livre, qui ce soir va être plutôt une rencontre autour d'un film. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Mylène Saulois, réalisatrice, et Aude Merlin, qui travaille à l'Université de Bruxelles. Donc je vous présente brièvement les intervenants. Mylène Saulois est réalisatrice, elle a réalisé une trentaine de documentaires, et entre 1994 et 2009, ces films ont porté plus spécifiquement sur la Tchétchénie. Donc le film que vous allez voir ce soir est l'un d'eux, il s'appelle « Qui a tué Natacha ?» et c'est autour donc de l'assassinat de Natalia Estemirova. Et d'autre part, Mylène Saulois a écrit aussi des récits comme Bogota Jungle, qui a été publié aux éditions Autrement en 1984. Et elle a participé aussi au livre Vivre en guerre, qui a été dirigé par Myriam Gaume, publié aux éditions Phébus en 2003. Aude Merlin, pour sa part, est chargée de cours en sciences politiques. Elle fait partie du Centre d'études de la vie politique CEVIPOL à l'Université libre de Bruxelles. Elle a dirigé la publication de plusieurs ouvrages, dont Ordre et désordre au Caucase, avec Sylvia Serrano, aux éditions de l'Université de Bruxelles en 2010, et Une affaire intérieure, russe et tchétchène dans l'étau de la guerre, avec Anne Le Hérou, Amandine Régamé et Sylvia Serrano, toujours aux éditions Autrement en 2005. Donc je vais passer tout de suite la parole à Mylène Saulois qui va vous dire quelques mots du film. Le film va être projeté et après il va y avoir une discussion qui va s'engager, des réactions à partir des propos d'Aude Merlin et de Mylène. Voilà. Bonne projection, à tout à l'heure.
Merci Olivier. Et merci Marine de nous avoir invités ici et d'avoir invité le film surtout, parce que voilà, le film se fait pour ça, pour être vu surtout hors télé et qu'on puisse en parler. Moi, je voulais juste dire deux mots. On est très content d'être là. Je vous félicite d'être venu sous cette pluie battante, parce que franchement, c'est héroïque. Et je voulais juste dire deux mots sur le film et surtout sur Natacha. Je ne dis rien sur Aude, avec qui on se retrouve régulièrement depuis des années autour de la Tchétchénie. et de films et de débats. Je veux dire que j'ai fait des films en Tchétchénie depuis 1995. Et à partir de 2000, à chaque fois que j'allais en Tchétchénie, je voyais Natacha. Natacha travaillait, vous verrez, à Mémorial. Et je pense que tous les journalistes, tous les documentaristes, tous les gens qui ont travaillé en Tchétchénie sont passés un jour ou l'autre chez Natacha. Tout le monde a reçu les informations de Natacha. Tout le monde, c'était un passage obligé là-bas. Odossi la connaissait. C'était devenu une amie pour beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé sur la Tchétchénie. La mort de Natacha a été un coup pour tout le monde, non seulement parce que c'était une amie à nous, parce que c'était une amie de beaucoup de gens, parce qu'elle avait aidé beaucoup de gens, mais aussi parce que c'était cette espèce de folie qui a vraiment achevé de mettre un manteau de silence sur la Tchétchénie. Natacha, c'était la dernière voix qui parlait encore là-bas, et de faire taire cette dernière voix, ça a été symboliquement énorme pour les Tchétchènes, pour nous, pour tous les gens qui avons voulu témoigner et tenter de faire comprendre ce qui se passait là-bas. Et voilà, c'est pas forcément le film que j'aurais voulu faire. C'était un film de commande, curieusement. C'était la télévision et une boîte de production qui ont demandé ce film. Je pense que moi, dans mon coin, j'aurais voulu rendre hommage davantage à sa vie que chercher qui l'avait tué, parce que on le savait tous, on l'a su tous très vite, on l'a tous compris très vite. Mais en tout cas, je suis très contente que ce film continue à tourner et à être vu, parce que c'est aussi rendre utile ce qu'a fait Natacha et la vie de Natacha. Voilà, je vous remercie d'être là.
Année de naissance ?
'Bonsoir à tous. C'est pas très facile de dire quelque chose après ce film, même si on connaît ce film. Enfin, on l'a déjà vu plusieurs fois, évidemment. Mais le revoir, pardon, aujourd'hui en 2013, c'est à nouveau un coup, c'est à nouveau un choc. Donc, je sais même pas si ça appelle des réactions. Enfin, c'est sûr qu'à la fois, bon, je peux peut-être dire quelques petits mots personnels. De ce que ça évoque pour moi de revoir ce film. Enfin, c'est alors évidemment, ça évoque très très fort la personne de Natacha. Comme disait Mylène, les uns et les autres qui ont travaillé sur la Tchétchénie ces 10, 15 dernières années, qui sont allés en Tchétchénie, l'ont à un moment ou à un autre rencontré. Donc, comme de nombreuses autres personnes, j'ai des souvenirs personnels avec elle. À Grozny, d'avoir dormi chez elle, d'avoir parlé avec elle, d'avoir recueilli des témoignages abominables avec elle auprès de personnes qui avaient subi des exactions à Grozny en 2004, d'avoir aussi plaisanté avec elle en 2007 à Grozny aussi, dans son appartement justement qu'elle venait de réintégrer. Elle montrait qu'il y avait de l'eau dans l'appartement, d'avoir joué avec sa fille dans un appartement en ruine, et sa fille qui à l'époque avait 10 ans, Lana, et puis d'avoir aussi été ici à Paris, à Beaubourg, avec elle le 7 octobre 2007 pour le premier anniversaire de l'assassinat d'Anna. Et Natacha était à Paris, et sur la place à Beaubourg, on était peut-être une centaine, 200 personnes, et Natacha a pris la parole à la tribune, enfin pour parler aux manifestants qui étaient venus pour soutenir la mémoire d'Anna. Et donc voilà, ça réveille beaucoup de souvenirs, évidemment. Alors sur un plan disons plus systémique et plus politique, voir ce film, ça rouvre aussi complètement toute la à la fois, ça rouvre, je dirais, complètement la page de tout ce qui s'est passé en Tchétchénie depuis, on pourrait dire depuis 1994, depuis la première guerre. On s'est connus avec Mylène en 1995 en Tchétchénie la première fois. Donc en plus, se revoir aujourd'hui, enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions comme ça qui rejaillissent. Avant de passer peut-être aux politiques et à l'analyse systémique, il y a aussi avant-hier, il vient de m'arriver quelque chose d'assez... qui m'a à la fois profondément émue et vraiment touchée. Enfin, j'ai reçu un mail d'une jeune femme tchétchène qui vit en France et qui m'a demandé si j'avais souvenir d'une femme prénommée Iman, je peux dire son prénom, enfin, c'est pas, qui me cherchait. Et j'avais connu cette femme dans un camp de réfugiés en Ingouchie en 2000, dans le cadre des émissions de radio avec Daniel Mermet. Et cette femme nous avait très fortement marqués parce qu'elle avait une jambe en moins. Et elle avait, sous un bombardement, perdu sa jambe et perdu l'enfant dont elle était enceinte, qui est mort-née. Elle a enterré sa jambe et son enfant ensemble. Et Iman, je l'ai revue dans le camp de réfugiés en 2000 plusieurs fois. Et là, elle m'a trouvée sur Internet. Je l'ai appelée immédiatement. Elle est en Allemagne depuis quelques jours. Et elle m'a raconté que depuis 2000, jusque 2013, il y a quelques jours, elle a essayé malgré tout de survivre en Tchétchénie, et du fait de son absence de jambes, elle a été à plusieurs reprises persécutée de façon très, très violente par les forces de Kadyrov, étant soupçonnée d'être une combattante, puisqu'elle avait une jambe en moins, alors qu'elle avait perdu cette jambe sous un bombardement à Sargi-Anyourt en 2000. Donc voilà, c'est vrai que ça rouvre tout ça. Avoir entendu Iman au téléphone l'autre jour, enfin, elle était avant-hier, elle était en sanglots, complètement émue qu'on se retrouve, qu'on se parle, on se souvenait l'une de l'autre. Voilà, donc c'est à chaque fois, voir un film comme ça, ça rouvre aussi tous ces destins. Et les cas que documentait Natacha, ce sont des dizaines, des centaines de personnes qui, elles, sont des personnes anonymes, comme cette dame, Iman ou comme d'autres, qui ont été directement victimes d'une machine barbare qui, comme ça, a fonctionné. Dans le contexte de ces deux guerres et de la post-guerre actuelle. Et alors là, j'en viens peut-être un peu à la situation actuelle en Tchétchénie et à l'analyse. Ici même, dans cet auditoire, il y a eu au mois d'octobre un colloque sur la Tchétchénie où étaient présents, entre autres, Tania Lokshina, qu'on voit dans le film, qui a témoigné sur la situation des femmes aujourd'hui en Tchétchénie, qui a donné des témoignages très, très forts et extrêmement sérieux, hein. C'est un travail très documenté. Il ne s'agit jamais de faire de l'esbrouf ou de raconter des choses qui choquent pour choquer, mais il s'agit de témoigner de la façon la plus précise, rigoureuse, documentée, comme le faisait Natacha elle-même, comme le faisait Anna elle-même. Enfin voilà, ce sont des personnes qui sont animées d'une éthique de vérité au plus juste de ce que c'est. Donc si quelque chose ne s'est pas passé et qu'on commence à faire des rumeurs, elles vont arrêter les rumeurs en disant non, on n'exagère rien, etc. Et Tania était ici à cette tribune. Il y avait Igor Kaliapin, qui préside le comité contre la torture, un russe de Nijni Novgorod, très courageux, qui, depuis l'assassinat de Natacha et les très grosses difficultés, comme vous pouvez l'imaginer, auxquelles a été confrontée l'ONG Mémorial, a mis en place un système de roulement, de monitoring par roulement, de juristes du comité contre la torture, du groupe Helsinki, de différentes ONG qui sont installées en Russie et qui tentent via des séjours d'un mois en Tchétchénie, et donc avec un roulement pour ne pas rester sur des périodes trop longues en Tchétchénie, étant donné les problèmes de sécurité, qui continue à travailler sur la documentation des cas, les recueils de témoignages, le suivi des affaires judiciaires, le suivi des affaires fabriquées, etc. Et donc Igor et Tania étaient ici au mois d'octobre dans ce même auditoire, hein, pour le colloque Tchétchénie, logique de violence et expérience de guerre.
Igor qui a participé au bouquin, là.
C'est Dmitrievski, son collègue. Ah oui, Stas Dmitrievski, qui a participé, qui est au livre Noir et Rouge du Tribunal international pour la justice en Tchétchénie. Et donc voilà, donc que dire aujourd'hui en 2013 sur la situation? On a une situation, on le voit très bien dans le film, hein, et merci à Mylène d'avoir fait ce film qui, je pense, était nécessaire et dont l'existence est absolument fondamentale. Et comme ça, on pourra encore voir ce film dans 10 ans, dans 20 ans. Enfin, c'est important de documenter, de laisser des traces, puisque c'est probablement la seule chose que nous, ici, on peut faire, hein, documenter précisément, sérieusement et tenter d'analyser. Ce que je voudrais dire donc, par rapport à la situation actuelle, je suis retournée en Tchétchénie en octobre dernier, justement 2 semaines avant le colloque dont je viens de parler. À ce colloque, Igor et Tania ont donc témoigné, ont donc raconté la perpétuation de ces systèmes d'impunité. Et c'est vrai que sur place, on sent très très fort, aujourd'hui encore, cette atmosphère très très lourde. Alors la différence par rapport à 2009 ou 2010 et au moment où ces images ont été tournées, c'est qu'il y a un peu plus de reconstruction. La reconstruction, elle est réelle, elle est tangible. Il ne s'agit pas du tout de la nier, bien évidemment. Mais derrière cette reconstruction matérielle continue à perdurer une dictature et qui, pourrait-on dire, a été d'autant plus facile, entre guillemets, à installer pour le pouvoir à Moscou avec ce relais qu'est Kadyrov sur place, que les Tchétchènes avaient subi des guerres de très grande ampleur, des guerres à composantes coloniales fortes, hein, et qui ont donné lieu à l'extermination partielle de la population tchétchène. Donc les civils ont été la cible principale de ces deux guerres. Et du coup, il est clair qu'après avoir vécu sous des tapis de bombes, puis dans des contextes de rafles répétées avec 100 000 hommes en armes et des checkpoints partout et des ruines comme quotidien, pas d'eau, pas d'électricité, une vie de rat, hein, une vie de rat dans un enfer à ciel ouvert. Il est sûr que la reconstruction a évidemment apporté un peu de répit au niveau du quotidien. Et donc pour le pouvoir russe, qui est le chef d'orchestre de cette transformation du conflit via l'organisation de la tchétchénisation, la nomination de Kadyrov père puis de Kadyrov fils, j'aurais envie de dire que d'une certaine façon, ça a été, entre guillemets, d'autant plus facile à installer que les Tchétchènes avaient subi ce qu'ils ont subi avant. Et ça, je pense que c'est important pour l'analyse de comprendre qu'il y a eu un moment où, évidemment, ce répit et cette sensation, et puis ces faits objectifs d'une vie qui va mieux quand on vit en paix, a pu rencontrer dans une partie de la population, évidemment, du soulagement pour les familles, pour les enfants, avec la remise en fonctionnement de structures de santé, de structures d'enseignement, enfin, et donc un retour à une vie en paix ou en tout cas en apparence de paix, hein. Donc il y a une dimension illusoire, il y a une dimension de façade, mais il y a aussi des transformations réelles. Et du coup, on a aujourd'hui cette espèce, voilà, cette dictature qui, d'une certaine façon, est comme une chape de plomb sur la société et qui est aussi contribue à des formes de négation de ce qui s'est passé avant, à ce qu'on pourrait appeler une forclusion de la mémoire et de l'imaginaire politique, et à une absence totale de liberté de parole. Donc voilà, Natacha en a été une des victimes. Elle touchait sur des points très très sensibles, à savoir les logiques de violence structurelles dans le système, l'usage de la torture dans les lieux de détention, complètement contrôlés par le pouvoir. Et Svetlana Ganushkina le dit très bien quand elle parle de la base de Kourtchaloy, elle dit Kadyrov contrôle complètement, voilà, et donc on a un pouvoir vertical pyramidal qui est entièrement contrôlé par Ramzan Kadyrov. Donc de toute façon, il est, quand Oleg Orlov de Mémorial, le jour de l'assassinat de Natacha, dit je connais la personne qui est responsable de cette mort, cette personne est un gouverneur de Russie, dirige une région de Russie, il s'agit de Ramzan Kadyrov. Ce que veut dire Oleg Orlov, c'est que voilà, en termes politiques et en termes d'organisation de cette hiérarchie du pouvoir, Kadyrov, qui contrôle tout, est forcément responsable de ce climat d'impunité et du fait que des personnes qui voudraient s'exprimer ne peuvent pas le faire, des personnes qui voudraient dénoncer ce qui se passe ne peuvent pas le faire, etc. Et alors, il y a un mois ou deux, et c'est très ironique, évidemment, ça sonne de façon très ironique. Le même Kadyrov s'est fendu d'un communiqué, d'une déclaration en disant « Mais quand même, les journalistes, il faudrait que vous soyez un petit peu plus critiques, il faut dénoncer ce qui ne va pas dans le système. » Et ça, c'est très typique des dictatures, finalement. Parfois, de jouer comme ça, comme il le dit d'ailleurs devant la caméra, quand il dit « Mais enfin, elle jacassait !» Et puis, au contraire, elle était très utile, puisqu'elle servait à faire croire qu'il y avait de la démocratie. Ou quand il dit « Mais si, il y a des criminels dans mon régime et que la justice les décèle, bien sûr que je viendrai témoigner si on me convoque, mais je viendrai tout de suite. » Bon. Il faut quand même rappeler que quand il y a eu l'assassinat de Oumar Israïlov à Vienne en Autriche en 2009 et que l'enquête très rigoureuse est remontée jusque Kadyrov n'est pas venu témoigner devant le tribunal de Vienne. Donc bon, c'est intéressant pour ça aussi que ces images existent parce qu'on peut toujours justement les renvoyer à la personne concernée. Et il a dit, voilà, Kadyrov a dit, il faut critiquer. C'est typique d'une dictature quand le dictateur dit à un moment donné à... des journalistes qui sont dans l'autocensure, hein, vous l'avez très bien vu avec ce jeune journaliste de télé qui dit « mais il n'y a pas besoin de critiquer puisque Kadyrov fait un travail extraordinaire, il est tellement merveilleux que comment pourrait-on bien pouvoir le critiquer ?» Et du coup, il y a toujours un moment où le dictateur en question va dire « mais si, bien sûr qu'il faut critiquer, il faut critiquer des fonctionnaires, il faut critiquer des forces intermédiaires, il faut dire là où ça ne va pas, bon ». Le pouvoir soviétique le faisait en son temps, avec les auto-critiques, avec les exclusions du parti, etc. Voilà, et donc le climat, bah, c'est ce climat toujours de silence et de loyauté au régime. Et donc on voit bien que pour vivre aujourd'hui en Tchétchénie, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre en Tchétchénie, on voit qu'il y a des gens dans les rues, pour vivre en Tchétchénie, il faut être muet, silencieux ou alors en faire plus, c'est-à-dire être dans une logique de loyauté explicite vis-à-vis du pouvoir. Et le jour où on n'est plus dans cette loyauté, on peut tomber en disgrâce très facilement, perdre son travail, voire subir des passages à tabac, subir des coups violents, se faire liquider, subir des tortures ou devoir en urgence fuir la Tchétchénie. Et c'est aussi ce qui explique qu'une partie... Il y a encore un maquis clandestin en Tchétchénie, dans les forêts, dans les montagnes, parce que précisément une partie des hommes, ce sont essentiellement des hommes qui, dans le maquis, qui ne sont pas d'accord avec cet ordre politique dictatorial, rejoignent soit le maquis, soit ça peut être de demander l'asile en Europe, ou alors finissent tués ou dans les prisons illégales. Donc voilà, c'est un tableau qui est très sombre, qui est très sinistre, qui en façade est beaucoup plus clinquant, rutilant qu'il y a 15 ans dans les images de ruines que Mylène a filmées avec patience, obstination pendant des années et des années. Quand on arrive à Grozny, on est effectivement d'une certaine façon subjugué parce que tout est reconstruit. Bon là, quand je suis arrivée le 6 octobre, c'était le lendemain de la fête du 5 octobre, qui est la fête, l'anniversaire de Kadyrov, qui est la fête de la ville, qui est la fête des instituteurs, qui est la fête de la jeunesse. Enfin bon, il y a un cumul de fêtes comme ça. C'était le premier samedi d'octobre et le 5 octobre, c'est l'anniversaire de Kadyrov. Et un de mes amis qui m'attend à l'aéroport et qui me dit « Ah, mais tu sais, hier, c'était la fête, il y avait ton compatriote. » Je dis « Quel compatriote ?» Il me dit « Depardieu, dont on ne disait pas encore à l'époque qu'il avait été, puisqu'il s'était bien gardé de le faire savoir. Et petit à petit, c'est sorti, on l'a dit, les journalistes l'ont repris, l'ont fait savoir. » Mais donc, évidemment, à l'œil nu, et Depardieu lui-même, est-ce que c'est de la bêtise, est-ce que c'est qu'il est acheté, peu importe. Mais là, évidemment, on arrive à Grozny, si on ne connaît rien à la situation, on peut dire, mais tout va bien, c'est la paix, bon, c'est un peu silencieux, il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues, il y a des hommes en armes dans certains quartiers, il y a parfois des colonnes militaires russes, hein, des colonnes de camions militaires que j'ai pu croiser en montagne sur des routes. Il y a effectivement de l'étrangeté, il y a une sensation de malaise, mais tout est reconstruit, donc on peut se dire, bah, après tout, la guerre est finie. Et au fond, voilà, si on creuse et qu'on analyse plus en finesse et qu'on va aussi sur les traces de tout ce qui est caché, qui ne fait pas l'objet de publication, on voit bien qu'on est face donc, à un système criminel. C'était le 6 octobre mon arrivée, le 7 octobre, c'était le jour de l'anniversaire de l'assassinat de Anna Politkovskaya. Et à un moment donné, dans la voiture, j'ai dit à mon collègue, en connaissant la réponse, mais j'ai dit, bon, il n'y a rien dans Grozny en commémoration de l'assassinat d'Anna. Il me dit, mais enfin, Aude. Et voilà, il me dit, si on fait quelque chose aujourd'hui, ce sera peut-être l'anniversaire de Poutine, qui est né le 7 octobre, jour de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, mais personne n'osera sortir avec un portrait d'Anna Politkovskaya dans les rues de Grozny en octobre 2012, le jour de l'anniversaire de son assassinat. Voilà, moi j'ai trop parlé, mais pour donner un peu quelques éléments, et puis Mylène va peut-être, s'il y a des questions.
Je voulais donner deux, trois nouvelles, peut-être des gens qui sont dans le film. Juste dire que Lana, la fille de Natacha, est en Europe. Elle fait des études brillantes. Il y a eu un grand geste de solidarité envers elle. Voilà, il y a eu des collègues pour lui payer des études en Europe et elle est en train de terminer brillamment. Et elle chante du blues à la guitare, elle chante du Nina Simone.
Et elle écrit des nouvelles.
Et voilà, et ça, c'est... Son père aussi était mort à Grosny. Schachmann, qu'on voit au début du film et qu'on voit dans le film, qui était le directeur de Mémorial au moment de la mort de Natacha, est réfugié en France avec toute sa famille, premier et deuxième cercle. Ahmed Gissaïev, qu'on voit dans le film sur le point de partir, qui est à Moscou avec sa femme et son petit garçon, qui était le dernier avec Natacha sur cette enquête sur ce type qu'on avait retrouvé dans un hôpital. Ahmed est réfugié en Norvège. La famille de Rayana, qui est assassinée, qui était aussi une très bonne amie, qui a été assassinée 3 semaines après Natacha, qui s'occupait d'enfants qui ont sauté sur les mines, toute sa famille en France ne pouvait plus vivre à Grosny. Et Oussam Baïsaïev, qu'on voit un peu aussi dans les images, qui est aussi un ami à nous, qui travaillait à Mémorial depuis des années, qui a travaillé sur ce gros livre, sur ce tribunal, cette envie d'un tribunal international pour la Tchétchénie, est aussi réfugié en Norvège. Il n'a pas demandé l'asile, d'ailleurs. Non. Il est en instance. Et il a aidé, poussé à ce que soit ouvert un centre de documentation en Norvège du nom de Natacha, qui s'appelle Natalia Stemirova Documentation Center, qui est un centre qui est en train de se constituer, qui va être au service des chercheurs et des défenseurs des droits de l'homme et des gens qui travaillent sur un tribunal pour la Tchétchénie. Et il y a des gens qui travaillent chez moi là depuis 3 mois, qui copient mes 15 ans d'archives pour ce centre. Je veux dire une petite chose à côté, mais moi, toutes les dernières années en Tchétchénie, je pense que quand on travaille longuement comme ça sur des conflits, quand on s'engage au-delà de sa profession, parce que comme beaucoup de gens qui ont travaillé en Tchétchénie, on est allé beaucoup plus loin que ce que requérait notre travail professionnel. Je pense qu'on espère toujours que ce qu'on fait serve à quelque chose, même modestement, mais que ça a une utilité, que en particulier le travail des journalistes et des documentaristes devrait aider à faire travailler la justice et les politiques. Enfin, c'est ça qu'on se dit, à créer une conscience citoyenne qui fasse pression sur les politiques et puis à faire que les politiques et la justice prennent leurs responsabilités. Et je pense que sur la Tchétchénie, pas que sur la Tchétchénie, mais sur la Tchétchénie, ça a été un cas d'école de l'inutilité totale de tout ce travail qui a consisté non pas à aider à fonctionner la justice ou la politique, mais simplement à créer de l'archive en temps réel, à faire du document pour du document et peut-être pour l'histoire des Tchétchènes, mais en aucun cas n'a participé de la recherche d'une solution ou d'un positionnement politique. On a toujours tout su sur la Tchétchénie en temps réel, toute la formation est sortie. Pas facilement, mais elle est sortie et ça a servi strictement à rien. Contrairement à d'autres cas, je veux dire, par exemple, je ne sais pas, moi j'étais en Tchétchénie au moment d'Abu Ghraib, au moment de la découverte des photos du traitement des prisonniers irakiens par les forces américaines en Irak. Et ces photos ont fait le tour du monde et ont servi à de nouvelles enquêtes, ont servi à des prises de mesures immédiates, ont servi à comprendre ce qui se passait en Irak et à ce que la justice fonctionne et à ce que les politiques fonctionnent. Ça n'a jamais été le cas en Tchétchénie. On a eu beau sortir des horreurs de plus en plus énormes, ça n'a jamais servi à rien. C'est assez compliqué de travailler longtemps sur un conflit quand vous avez l'impression que ce que vous faites ne sert strictement à rien qu'à créer de l'archive. Le film, quant à lui, a une histoire de diffusion plutôt émouvante. Moi, j'ai fait entre autres une tournée l'année dernière aux États-Unis avec le père justement de Omar Israelov, Omar Israilov, qui a donc été assassiné à Vienne, hein, après avoir porté plainte au tribunal, à la cour de Strasbourg contre Kadyrov pour torture. Et c'est son père qui l'avait poussé à quitter la Tchétchénie, à dénoncer Kadyrov. Et c'est son père qui porte sur lui cette mort et qui a... Donc j'ai fait une tournée avec lui aux États-Unis, avec la FIDH, et avec Doka Itzlaïev, qu'on voit dans le film, qui a repris la direction de Mémorial, la direction intérimaire de Mémorial, après que Sharman ait dû partir, après que tout le monde ait dû quitter le navire. Et j'ai donc participé avec eux. Il y a eu des auditions au Congrès à Washington. Ils ont fait venir pas mal de monde pour voir le film. Ça a été un bon choc, je pense, pour les parlementaires américains et les témoignages, d'entendre le père Israilov raconter comment il a poussé son fils à partir et à témoigner, comment son fils en est mort et comment lui continue à témoigner et comment ça lui a coûté à lui l'exil avec toute sa famille. Je peux vous dire que ça fait partie des témoignages qui vous restent longtemps. Le film a beaucoup tourné et c'est bien. Enfin, c'est bien pour la mémoire de Natacha, pour toutes les femmes qui sont encore sur le pied de guerre. Toutes ces femmes qu'on voit, Aude parlait de Tonia Lokshina, Svetlana Ganushkina, Nana Mtsova, Katia Sakaryanskaya, toutes ces femmes qui se battent en Russie en prenant des risques énormes aujourd'hui et qui continuent. Je trouve que pour rendre hommage à ce qu'elles font, c'est bien que le film continue à tourner pour elles aussi et pour les défenseurs des droits de l'homme en Russie en général. En tout cas, moi je suis allée avec ce film de Kirghizie au Népal. C'est assez étonnant comment l'image de Natacha, je sais pas, a pris une consistance, est devenue emblématique du courage incroyable de gens qui vont au bout de leurs convictions. Moi ça me retourne toujours de voir le film, pas que j'aime spécialement ce film, mais parce que chapeau à Natacha et à toutes ces femmes qui continuent.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir ou vous poser des questions ?
D'abord, je voulais remercier Mylène pour ce film qui m'a appris beaucoup de choses et m'a énormément touchée. Il est mentionné à plusieurs reprises une résistance islamiste. Qu'est-ce qu'on en sait ? Aude, vous avez parlé des hommes qui prennent le maquis. C'est de cette résistance-là dont vous parlez. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qu'on en sait que...
Vas-y. Peut-être premier élément de réponse. Là, quand j'étais en octobre dernier, à un moment, on était sur la route, dans les montagnes, avec ce collègue et ami. Et à un moment, je lui demande, tu penses que là, c'était le mois d'octobre, les arbres sont très verts, il fait très beau, très chaud. Et je lui demandais, tu penses que là, il y a des combattants, par exemple, dans la forêt, à quelques mètres. Il dit, c'est pas du tout impossible. Mais le seul fait d'en parler en Tchétchénie ferait de toi une complice supposée, une sympathisante suspecte. Donc, silence, radio, on n'en parle pas, c'est interdit d'en parler. Donc du coup, comment est-ce qu'on travaille sur cette question-là, quand on essaye de travailler sur cette question-là ? C'est sûr qu'il y a des actes d'attaque, de harcèlement contre des postes de police ou contre des représentants du pouvoir qui ont lieu en Tchétchénie et surtout beaucoup ces dernières années dans d'autres républiques au Nord-Caucase, en particulier au Daghestan, à l'est de la Tchétchénie. En Kabardino-Balkarie également, en Ingouchie, donc avec des logiques de combattants qui sont essentiellement dans leur rhétorique adossés à une rhétorique islamiste. C'est devenu d'une certaine façon le fonds de commerce en termes de discours, puisque le projet qu'avait une partie de la résistance tchétchène Et au début, même, on pourrait dire l'ensemble de la résistance tchétchène pendant la Première Guerre était un combat de libération nationale, on pourrait dire de type classique, et qui était quand même plutôt laïque au départ dans son essence, dans son projet, et qui visait, au moment où il y a eu la parade des souverainetés à la fin de l'Union soviétique, et où les Arméniens, les Géorgiens, les Azéris au sud du Caucase, ou les Baltes et autres donc, sont devenus indépendants, ont eu un État indépendant reconnu par la communauté internationale, c'est vrai que des élites indépendantistes tchétchènes ont aussi dit « pourquoi pas nous ?» en disant « on a été conquis par la force au XIXe siècle avec des pertes humaines colossales, on a été déporté en 1944 par Staline avec des pertes humaines et aussi une destruction de la mémoire et un traumatisme collectif, puisque l'Union soviétique s'effrite ». Nous sommes par essence un peuple qui a été colonisé, pourquoi n'aurions pas nous le droit à l'indépendance? Si je, voilà, je résume et je simplifie un peu bien sûr tout ça, mais en gros c'était l'idée. Alors après il y a aussi des problèmes du côté des élites tchétchènes de l'époque, qui étaient des élites qui avaient été soviétisées, qui étaient peu nombreuses, qui n'avaient pas une grammaire politique très articulée, qui n'avaient pas non plus une vision d'un État tchétchène à construire très précise, d'autant plus que les Tchétchènes n'avaient jamais eu d'État en tant que tel, à part une expérience d'imama pendant la guerre du Caucase au XIXe siècle. Mais il y avait quand même donc au début des années 90 un projet de libération nationale tchétchène, de construction d'un État-nation tchétchène, disons. Et pendant la Première Guerre, pendant l'entre-deux-guerres, puis à partir de la Deuxième Guerre, la composante islamiste de ce maquis, de cette résistance, devient de plus en plus importante, à la fois en moyens, en argent et en idéologie d'une certaine façon. C'est-à-dire que, vu que l'indépendance sous Doudaïev ou sous Masradov ont été des années de chaos, pour la population, c'était plus tellement un argument de vente franchement, convaincant, si je puis dire. Et le fait est que la donne islamiste prend de plus en plus d'importance au sein de la résistance armée tchétchène, alors qu'il y a encore un président tchétchène à l'époque, indépendantiste, globalement laïque. Bon, on peut discuter, il a fait des alliances avec les islamistes, il s'est fait un peu aussi dominer par eux, il était plus faible qu'eux, Masradov. Mais il y avait encore une revendication d'État tchétchène et de décolonisation. Mais après son assassinat en 2005, c'est vrai qu'en termes rhétoriques, ce qui reste dans le maquis, c'est plus qu'une une rhétorique islamiste. Alors, elle existe, les combattants existent, il y a des actes donc, d'attaque, de harcèlement, d'oppression, de diversion, de pose d'explosifs, etc., qui ont lieu. Beaucoup moins en Tchétchénie que dans les Daghestan, ça c'est vraiment très très net. Mais on voit effectivement que depuis 2007, il y a eu la proclamation d'un émirat du Caucase par Doku Umarov, qui est un des combattants qui a succédé à Sadoulayev, qui lui-même succédait à Masradov. Et donc, petit à petit, il n'est resté plus que ce discours-là du côté de ceux qui se battent en montagne, donc qui sont clandestins, qui sont, en tout cas au niveau rhétorique islamiste, on ne sait pas si chacun dans son âme se sent islamiste, dans ceux qui sont au maquis, ça personne ne sait. Hein. Il faudrait pouvoir tous les questionner un à un, c'est tout à fait impossible. On ne peut pas en parler sur place, c'est tabou. On peut en parler ici avec des gens qui ont connu à un moment donné la résistance et le maquis, mais on ne peut pas avoir la certitude que tous sont là par idéologie de construire un émirat. C'est plus une espèce de, disons, une phraséologie disponible qu'ils ont sous la main et qui est d'une certaine façon la seule disponible et maniable comme ça, voilà, et qui se promène sur Internet, sur des sites islamistes. Alors après, ça ne veut pas dire que tous y adhèrent. Il y a probablement des hommes qui rejoignent le maquis par vengeance, d'autres parce qu'il n'y a pas d'espace d'expression politique alternative dans la Tchétchénie de Kadyrov, d'autres parce qu'ils ont été provoqués, d'autres parce qu'ils ont été torturés, d'autres... Bon, voilà. Mais c'est sûr que ce maquis existe. Alors, en Tchétchénie, combien? Peut-être quelques centaines d'hommes, on ne sait pas trop. C'est très difficile, là aussi, à dire. En tout cas, il y a des djamats, des unités de 5 à 15 combattants, probablement, qui agissent de façon relativement décoordonnée, relativement autonome, mais il y a des forces de renouvellement dans la population, c'est-à-dire toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont subi une humiliation, des actes de torture, une détention avec des mauvais traitements, parce qu'il y a une telle impunité que les policiers dans les commissariats de police se livrent à des exactions qui restent impunies. Alors, dans ce sens, on peut d'ailleurs parler plus d'une différence de degré que de nature par rapport à ce qui se passe ailleurs en Russie, puisqu'on sait bien qu'il y a des problèmes de violence dans les commissariats de police ailleurs en Russie. Il y a un rapport qui va sortir très prochainement, le rapport de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, un rapport sur la torture en Russie, donc qui à la fois développe le cas tchétchène et les cas nord-caucasiens, mais montre aussi ce qui se passe dans d'autres commissariats ailleurs en Russie. Donc il y a un problème endémique d'impunité et de violence dans les commissariats de police, dans les, donc perpétrés par les forces de l'ordre contre des personnes suspectées, arrêtées, en garde à vue, etc. Et en Tchétchénie, au Nord-Caucase, c'est particulièrement étendu. Donc ça nourrit des forces de renouvellement d'un maquis potentiel. Voilà. Alors, ce maquis a revendiqué des actes terroristes massifs, hein, comme celui de Domodiedovo à l'aéroport à Moscou en 2011, celui de, du métro en mars 2010 à Moscou. Donc voilà, de temps en temps... Alors oui, alors à l'époque, oui, c'était Masradov était encore vivant, mais c'est sûr qu'il y a eu une revendication par Basayev, hein, qui était donc un des combattants les plus extrémistes de la résistance tchétchène et qui a revendiqué des actes terroristes massifs, collectifs et absolument criminels et meurtriers. Enfin, et Basayev a revendiqué Beslan en 2004, la prise d'otages dans l'école, et Nordost en 2002. Donc là, c'était avant que soit proclamé cet émirat en 2007. Donc c'était un moment où il y avait une espèce de cohabitation dans la mouvance indépendantiste entre des indépendantistes, on pourrait dire fréquentables, et des indépendantistes infréquentables, si on caricature. Enfin, en tout cas, voilà, des indépendantistes qui voulaient négocier et qui prétendaient vouloir construire une démocratie et qui refusaient tout acte de terrorisme, en tout cas en théorie, et puis des indépendantistes absolument... sans foi ni loi, qui disait, puisque l'armée russe a commis des exactions à tour de bras, c'est notre seule voie, notre seul recours. Voilà, enfin, c'était leur logique à eux et leur façon de raisonner et de tenter de justifier ça. Je ne m'associe pas à cette justification, mais voilà, pour expliquer comment des violations massives de droits de l'homme et des exactions de grande ampleur peuvent, hélas, finir par pousser des gens à des agissements absolument abominables. Voilà. Donc cet émirat, on a peu d'informations dessus, mais on en a quand même, on arrive quand même à en glaner ici et là. On voit bien que régulièrement, il y a des opérations spéciales menées par les forces fédérales ou par des forces locales, forces de l'ordre locales, mais qui sont loyales à Moscou, enfin, qui encerclent des villages pour essayer d'attraper un combattant, un gros bonnet, un émir, parce que dans cet émirat, ils portent des titres justement qui reprennent aussi tout ce vocabulaire islamique, donc des émirs, des vilayettes. Au sein, bon, j'ai pas pris de clé de présentation, mais voilà, j'ai des cartes dans mon ordinateur où on voit comment les vilayettes, les unités ou les circonscriptions internes à l'émirat épousent complètement les entités fédérées du Nord-Caucase. Donc c'est l'idée de dire, voilà, il y a des combattants qui vont continuer à harceler les forces de l'ordre et les représentants du pouvoir pour dire, ici, c'est pas chez vous, c'est une terre qui a été colonisée au 19e siècle, soviétisée, en partie par la force, et à l'époque post-soviétique, nous refusons cet ordre qui utilise la torture et les mauvais traitements dans les commissariats. Donc il y a une espèce de spirale de la violence qui est assez difficile à enrayer. Là, les chiffres, 2011, 1378 victimes au Nord-Caucase, dont 700 morts. 2012, 1225 victimes, dont 750 morts. Donc, ça fait quand même en moyenne 2 morts par jour sur l'ensemble du Nord-Caucase. Donc, ça veut dire que non seulement le conflit n'est pas réglé, il s'est étendu, il y a une forme de contagion du conflit, de transformation, mais en plus, ni les autorités russes, ni les forces de l'ordre locales ne parviennent à trouver des solutions pour comprendre ce qui se passe et pour mettre fin à cette violence. Et voilà, et c'est sûr que les pratiques qui ont été mises en œuvre par les forces fédérales puis les forces locales sont en général assez contre-productives. Enfin, elles aboutissent quand même plus au renouvellement des forces combattantes en face que à une résolution et à une réintégration des populations dans un système de paix qui respecterait tous les êtres humains. Alors il y a des problèmes de chômage, d'exclusion sociale, etc., mais il y a surtout des problèmes politiques et des problèmes de violence qui du coup produisent la reproduction de cette violence. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Après, il y a des sites. Je peux vous donner des sites islamistes. Vous pouvez aller regarder qui sont ces combattants dans le maquis, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils prétendent vouloir. Mais Ce qui est intéressant quand même quand on regarde leur site, c'est que c'est une phraséologie islamiste du style vouloir bouter les kafirs, les mourtades, les mécréants, les chiens, etc. Mais en fait, toujours sous cette espèce de chapeau islamiste, il y a une dimension toujours anticoloniale puisqu'il s'agit de chasser des occupants en fait. Donc c'est toujours une articulation de ces deux niveaux.
Je voudrais juste vous demander, merci d'abord pour ce film, parce qu'effectivement c'est superbe et poignant, et on a beau connaître le problème, quand on voit le film que vous avez réalisé, ça touche toujours. Il y a deux questions, enfin deux, une question et une information. Alors je vais commencer par l'information, qui est une toute petite chose. Tout à fait par hasard, c'était une étudiante ici qui a fait donc un exposé sur Sochi, et à l'occasion, enfin sur les constructions, sur la situation à l'heure actuelle. Hein. Et à cette occasion, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, elle est tombée sur une interview de Poutine qui inspectait. Et alors, cette petite vidéo est passée à la télévision nationale russe. Hein. Donc, ce n'est pas un montage, c'était vraiment. Et donc, il visitait les lieux. Je pense que ça doit remonter à 2 mois à peu près. Et il avait l'air très en colère parce qu'effectivement, ça coûte plus cher. Enfin bon, il y a du retard, etc. Et alors, avec un visage très tendu, à un moment, il s'est retourné vers quelqu'un et dit « Mais comment ça se fait qu'on en est encore à cela ?» Et la personne qui était à côté de lui, je suis désolée, je ne me souviens pas des noms, mais on peut les trouver si vous voulez. La personne à côté de lui a prononcé un nom en disant « Oh, bah, c'est, évidemment, ce n'est pas moi, c'est l'autre. » Mais donc, il a dit non, que c'est, le responsable, c'était un tel. Il a nommé une personne. Il s'est trouvé, on a appris ça 15 jours, parce que celle qui a fait la recherche pour le... On lui a posé la question, on a dit bah, « Tiens, où il en est ?» Et en fait, il est empoisonné. On ne sait pas s'il est mort ou pas, on n'a pas réussi à avoir l'information. Mais il a été empoisonné. Et c'était quelqu'un qui avait une forte représentation, enfin une forte responsabilité sur la construction des jeux, enfin tout ce qui se passait à Sochi. Je dis ça pour dire, ça en rappelle dans le film, là, à un moment donné, quand celui qui est à Londres dit, ben, de toute façon, il suffit qu'on pose la question, et l'autre dit, tiens, bon, il est encore, enfin bon. Et c'est une allusion, quoi. Et là, c'était très net. Et il est, je veux dire, c'est récent. Et c'est, il suffit, on peut pas. Elle a recherché, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas s'il est mort ou pas, mais il était empoisonné, donc il était à l'hôpital. La question que je me pose justement, c'est aussi à propos de Sochi, puisque ça a été l'argument, et c'est l'argument où ça en est, c'est la question, c'est que la crainte et la surexploitation justement du danger des Caucasiens qui interviendraient dans les Jeux Olympiques. Alors, à quel degré c'est un moyen d'intervenir au Caucase ou sur place pour lutter contre toute opposition? Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Je résume la question. Merci.
En deux mots, enfin, et pour le reste de la salle, voilà, quand Madame parle de Sochi, il s'agit donc des Jeux Olympiques d'hiver qui sont prévus en février 2014 sur le littoral de la mer Noire et dans la montagne. À Sochi et à Krasna Poliana, donc vraiment dans le sud-ouest de la Russie, sur le littoral de la mer Noire, donc à l'ouest, vraiment sur la partie ouest de la chaîne du Caucase. Et c'est sûr que du coup, la situation géographique des Jeux, lorsque le choix de Sochi, lorsque Sochi a été élue ville pour les JO d'hiver de 2014, elle a été élue en 2007 pour ces Jeux de 2014. C'est sûr que ça a quand même suscité un certain nombre de réactions et de perplexités. Peut-être non pas tant déjà pour une bizarrerie qui organisait des Jeux d'hiver dans la région, une des régions les plus chaudes de Russie, c'était un peu étrange, mais surtout au Caucase, région qui est quand même travaillée par des conflits dont certains sont non résolus. Voilà. Et du coup, c'est sûr qu'on peut pas, on ne sait pas à l'avance s'il y a un potentiel de déstabilisation, d'insécurité de la part soit de combattants du maquis islamiste, soit de forces qui voudraient déstabiliser à ce moment-là la situation. Bon, ça, on ne sait pas du tout à l'avance. Ce qu'on peut déjà voir, c'est que bien évidemment, les autorités russes et les autorités locales vont mettre, en termes de sécurité, des dispositifs immenses, hein, bon, très onéreux et très importants pour essayer de prévenir toute tentative d'attentat, d'acte terroriste ou autre. Bon. Après, est-ce que cet émirat virtuel, là, cette espèce de maquis va profiter, entre guillemets, du fait que la Russie est sous les projecteurs et que les Jeux Olympiques sont organisés à quelques encablures de là où ils se battent, pour essayer de déstabiliser ou faire parler d'eux, on n'en sait rien, on n'en sait strictement rien à l'avance. Ce qui est sûr, c'est que déjà Sotchi fait l'objet d'indignation, de contestation, également de la part aussi des Ouest-Caucasiens, des Circassiens, des Tcherkesses, qui sont les descendants de peuples qui ont été conduits à l'exil forcé à la fin du XIXe siècle et qui, en particulier, ont subi des massacres le 21 mai 1864. Donc, il y a deux jours, il y avait les rassemblements mémoriels du 21 mai et qui utilisent en tout cas l'occasion des Jeux Olympiques pour revendiquer la labellisation comme génocide des massacres qu'ils ont subis. Et donc, ils appellent au boycott des Jeux, ils mobilisent, ils essayent de faire du lobbying, etc. Donc, c'est sûr que ces Jeux Olympiques, ils sont politisés, qu'on le veuille ou non. Et de ce fait-là, il y a aussi forcément des risques en termes de sécurité, mais on ne sait pas trop. C'est vrai que certains journalistes à Sotchi ont été intimidés. Voilà. Il y a beaucoup de corruption, vous l'avez mentionné. Effectivement, Vladimir Poutine a fait une remarque très ironique en disant « Je vois que les travaux avancent bien ». Et en fait, c'était pour se plaindre du retard dans les travaux et également des multiplications des budgets par rapport au budget prévu. Parce qu'il y a vraiment... Il y a un certain nombre d'intermédiaires qui s'en mettent vraiment, vraiment plein les poches. Il y a des histoires ahurissantes sur Sotchi où on importe du sable de l'autre côté de la Caspienne alors qu'il y a du sable sur place, enfin, des choses mais surréalistes, où le prix du sable tout à coup est multiplié par 4, où la Bilalov qui était responsable des chantiers a été destituée en février parce qu'en fait il avait réussi... Ah ben voilà, c'est Bilalov. Son frère, il avait réussi à faire en sorte que tous les marchés... soit décroché par son frère qui avait une entreprise de bâtiments et qui a multiplié tous les coûts par 4 ou 5. Enfin non, mais c'est... Non, mais Sotchi, pour ceux qui veulent travailler sur la corruption en Russie, c'est une mine, un laboratoire. Donc oui, c'est sûr que c'est... Du coup, c'est un point d'abcès aussi. Le pouvoir russe n'aime pas qu'on mette le nez dans les agissements de corruption à haut niveau. Hein. Rappelez-vous l'affaire Magnitsky de 2009. Et donc, c'est sûr que là, Sotchi, c'est forcément... c'est un bon journaliste d'investigation, il ne peut pas ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Ben, Poutine, il y a une datcha, il y a des possessions. Ouais.
Des pardieux.
Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est en quelle mesure ça peut être utilisé ça pour justement agir contre tout ce qui peut être opposant. Mais je pense opposant, je ne pense pas au délire forcément. Enfin, je pense plus aux journalistes à tous les jours, à tous les temps.
Ce qu'on observe en Russie sur le temps long, c'est que quand il y a des faits très très sensibles auxquels le Kremlin ne veut pas qu'on touche, il s'arrange pour que les personnes qui éventuellement voulaient s'en mêler, des bons journalistes, des personnes courageuses, d'une ONG ou autre, ne puissent plus le faire. Alors après, les méthodes sont variées et les périodes sont variées. Donc je ne sais pas si Sotchi va être plus ou pas plus un moyen, ça je ne peux absolument pas vous dire. Parce que si les journalistes sont dans l'autocensure, le Kremlin n'aura pas besoin... j'essaye de comprendre la logique du Kremlin et la logique cynique du Kremlin. Je prends pas du tout, évidemment, position pour cette vision-là des choses, mais j'essaye de comprendre comment fonctionne le pouvoir. Puisqu'en 2012, Vladimir Poutine est revenu à la présidence russe et on a vu une batterie législative être adoptée de lois répressives contre les ONG... Donc, avec des pénalités, des amendes très lourdes pour l'organisation de manifestations, l'injonction de se déclarer agent étranger quand on reçoit de l'argent de l'extérieur. Donc, Mémorial doit en principe se déclarer agent étranger comme d'autres ONG, etc., etc., etc. Plus une législation homophobe. Plus... Donc, vous avez une législation qui revient, qui remet à l'ordre du jour la question de la diffamation, de la pénalisation de la diffamation. Donc évidemment, vous imaginez bien que ça rétrécit très fort la liberté d'expression. Donc il y a cette batterie législative. Est-ce que Sochi, dans ce cadre-là, va être utilisé ou pas par le pouvoir pour serrer la vis? Ça dépend. Si la vis est déjà suffisamment serrée aux yeux du Kremlin, je crois que vraiment, et on le voit avec les amis qui ont été assassinés, ces personnes-là ont été assassinées parce qu'on pourrait dire, d'une certaine façon, le Kremlin s'y est pas trompé. Il a supprimé les personnes qui touchaient aux questions les plus sensibles et qui dérangeaient le plus. Donc la torture perpétrée par Kadyrov, ça peut être, dans le cas de Magnitsky, des agissements de corruption à très haut niveau. Donc un avocat de 37 ans qui est mort en détention en 2009 parce qu'il avait fait très très bien son travail d'avocat. Il travaillait pour le fonds de la fondation Heritage, une fondation britannique, mais dans laquelle il y avait aussi des parts américaines. Et il a levé des lièvres hallucinants sur la corruption à très, 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 très haut niveau dans l'organigramme du pouvoir politique russe. Ben ça, le Kremlin n'a pas supporté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné l'accusation contre Magnitsky en accusant Magnitsky de corruption lui-même. Et ce pauvre Sergueï Magnitsky, excellent avocat, s'est retrouvé en détention et mort en détention. Donc, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils lui ont refusé des soins médicaux. Ils l'ont tellement torturé et tellement maltraité qu'il en est mort. Et vous avez suivi sans doute cet hiver les tensions russo-américaines autour de la liste Magnitsky, puisque le Sénat américain a établi une liste pour interdire l'accès au sol américain de toute une série de hauts dignitaires russes qui sont coupables, comptables de violations de droits de l'homme et ou coupables de la mort de Magnitsky. Et Kadyrov est sur cette liste. Pas par rapport à Magnitsky, mais en tant que grand, grand, grand criminel.
Ça va être la dernière question.
Oui, bonsoir. Mylène Soloy, vous avez dit que les deux dernières voix dissidentes sur la guerre en Tchétchénie étaient Natacha Estemirova et Anna Politkovskaya. J'aimerais savoir si aujourd'hui il y a encore des journalistes indépendants comme ça par rapport à la guerre en Tchétchénie, notamment dans la rédaction de Novaya Gazeta.
Oui, alors dans Novaya Gazeta, l'information s'est arrêtée. Donc, la situation n'est pas la même en Russie qu'en Tchétchénie. Hein. Ceux qui vivent à l'intérieur de la Tchétchénie et qui parlent, c'est fini. Je pense que Natacha était la dernière. Il n'y en a pas eu depuis. Ça ne veut pas dire que Mémorial ne fait pas un boulot. Ça ne veut pas dire qu'il y a des rapports.
Comment?
Oyoub. Oui, Oyoub, qu'il y a des gens dont on parlait. Oud, qui...
Igor.
Mais ils ne vivent pas en Tchétchénie.
Voilà.
Igor, ils ne vivent pas en Tchétchénie. Oui. Voilà, il y a très peu... On ne parle plus en Tchétchénie. Novaya Gazeta a repris l'information en Tchétchénie, entre autres par le biais de Lena Milashina, qui est donc encore une nouvelle jeune journaliste qui a repris le flambeau et qui a elle-même non seulement été menacée, mais qui s'est fait casser la gueule en pleine rue à Moscou, qui s'est fait casser le visage, les dents. Quand les flics sont arrivés, elle a demandé de l'aide. Ça s'est retourné contre elle, comme souvent, hein, de victime. Elle est passée à coupable. Donc je pense que les pressions qu'elle subit sont salées. Par contre, sur les... Moi je vois pas là de journalistes qui travailleraient en Tchétchénie, hein, sur la Tchétchénie, oui, mais...
Il y a des journalistes de Doche qui font beaucoup d'allers-retours, ouais, entre...
Il y a des journalistes de Doche, qui se sont calmés aussi sur les dénonciations. Oui, c'est vrai, il y a Doche. Il y a une revue, effectivement. Il y a une revue tchétchène basée à Moscou et eux font l'allers-retour, c'est vrai. C'est vrai, il y a Doche.
Et puis Kaliapine, donc lui du comité contre la torture, qui continue,
voilà,
qui est très
menacé.
Voilà, et
c'est qui rentre et sort.
Voilà,
c'est ce groupe d'action qui rentre et sort de Tchétchénie, qui reste pas à l'intérieur. Donc non, c'est difficile. Et côté enquête, je voulais juste dire que ça n'a pas abouti nulle part. Hein. Sur Natacha, ils ont fini après le film. Enfin, c'est pour ça que c'est pas dans le film. Ils ont accusé un combattant tchétchène qui était mort, évidemment.
Bachaïev
d'être le coupable de l'assassinat de Natacha. Et il s'avère que son frère s'est réfugié à Paris, a été demandeur d'asile à Paris. Et donc la FIDH a pris l'initiative de faire des analyses ADN et a prouvé que c'était impossible que ce soit Mais bon, ça veut dire que maintenant, les organismes de droits de l'homme se retrouvent à faire des le boulot des juges, simplement, c'est hallucinant, quoi. Pour prouver que ce frère qui était aussi accusé, d'ailleurs, qui était aussi accusé de complicité, que les deux frères n'avaient rien à voir. Et c'est tout ce qu'ils ont sorti comme coupable pour la mort de Natacha, alors qu'ils savent très bien depuis le début d'où ça vient. Ils le savent parfaitement, d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, le procureur russe.
Sobol.
Il savait parfaitement depuis le début et qui disait depuis le début que lui, il savait, mais qu'il ne pouvait pas parler, quoi. Qu'il n'avait pas eu l'ordre de dire quelque chose comme ça. On ne lui a pas dit de dire, donc il ne dit rien. Non.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous projeter ce film et en parler après. Je vous informe juste que notre prochaine manifestation aura lieu le mardi 4 juin autour de la Syrie. Vous avez l'affiche qui est devant vous. Ça sera sur cartographier la guerre en Syrie, avec donc le géographe Fabrice Balanche et le cartographe.